On va continuer et finir aujourd'hui sur les plans de Dieu. Amen. On va... C'est qu'en résumé, quelque chose qui est important, qui pourrait peut-être être un guide. Mais Dieu, c'est Dieu qui arrose toute sa parole. Amen. Et nous rend capables de la vivre. Alors, on va, comme rappel, je fais toujours le rappel, Colossiens 1, 16, vous allez réciter. Ça fait 7 fois qu'on le répète. Colossiens 1, 16. Colossiens, que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Colossiens 1, 16. Donc, que chacun dise, je suis créé pour Dieu. Et si quelqu'un veut se retirer de cet objectif, il se trompe. Amen. Parce que nous sommes créés pour Dieu. Si une pierre peut dire non, on m'a taillé pour introduire la nourriture dans la bouche, mais moi je vais rouler comme une voiture, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Donc, nous sommes créés pour Dieu et nous sommes créés par lui. Et nous avons vu aussi que nous ne sommes pas là par hasard, que Dieu a beaucoup médité avant de nous créer, avant d'apparaître sur cette terre, avant de naître. On était connu de lui dans ses pensées, dans ses projets, dans son cœur. Amen. Et on sait aussi que la vie selon Dieu, on a vu ça, que la vie selon Dieu est différente de la façon dont nous pouvons voir, surtout quand nous ne connaissons pas le Seigneur. La vie selon Dieu, c'est déjà ici sur terre, c'est en passage, et nous sommes en préparation pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il considère les épreuves comme des outils de formation, les épreuves. Et aussi, nous avons vu que nous avons une famille. Une fois que nous naissons naturellement, nous naissons dans une famille. Même les bébés éprouvettes, hein, ils viennent d'un papa et d'une maman quelque part. Donc Dieu considère cette famille naturelle comme une famille. Et quand nous naissons, Dieu nous met aussi dans une famille spirituelle. Amen. Et on a vu qu'il fait aussi un travail pour que nous puissions ressembler à Christ, ce qui s'appelle la croissance spirituelle. Amen, la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, on va découvrir qui nous sommes. On va essayer de comprendre ce que nous pouvons faire pour Dieu, notre appel. On va essayer de nous cibler nous-mêmes. Amen, que chacun puisse essayer de se comprendre. Amen, nous allons répondre à cette question. Qui suis-je? Mon identité. Parce que ce que je suis va déterminer mon importance et ce que je suis va déterminer aussi ma place. Amen. Selon Dieu. Hein. Selon Dieu, non pas selon les hommes. Parce que souvent, ce que pensent les hommes, c'est une folie pour Dieu. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées, n'est-ce pas? Et nos voix ne sont pas ses voix. Et pour connaître ses pensées, il faut aller les chercher, il faut le chercher. Pour connaître ses voies, c'est pareil, il faut les chercher. Amen. Et nous savons que chaque homme est créé avec des capacités. Chaque homme est créé et Dieu, nous avons vu qu'il nous met dans un endroit exprès, qu'il choisit les parents exprès, qu'il choisit l'entourage exprès, que tout ce que Dieu choisit est exprès pour nous former selon son appel. C'est pour ça que nous sommes différents les uns des autres. Même les enfants qui naissent des mêmes parents ne sont pas pareils les uns les autres. Parce qu'on a vu l'unicité des personnes. On a vu que chaque être est unique. Que chaque être est unique. Et a un appel unique. Et qui suis-je? Amen. Donc chaque homme a des capacités naturelles et des capacités spirituelles. Et c'est déterminé par Dieu. C'est ce que Dieu appelle des dons naturels. Et, ou alors, il y a aussi ce que Dieu appelle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Des dons spirituels. Mais il y a aussi des dons naturels. Et des fois, nous les chrétiens, on aime se tromper. On dit, Si ce n'est pas un nom spirituel, ce n'est pas important. Faux. Amen. Que ce soit un don naturel, que ce soit un don spirituel, les deux sont très importants. Parce que les deux nous viennent de Dieu. Amen. Et les deux nous viennent du Seigneur. Ils sont très importants. Pourquoi? Parce que Dieu peut te donner un don. Par exemple, tu es maçon. Dieu peut te donner un don pour bien choisir les matières pour la construction. Un don que tout le monde reconnaît. Ah, c'est tel qui a fait. Qu'est-ce que c'est un bon maçon? Vous savez pourquoi Dieu nous donne ses dons? Parce que Dieu est un Dieu de construction et Satan est un Dieu de destruction. Dieu est celui qui construit quelque chose qui va bénir notre prochain, quelque chose qui va bénir l'humanité, toute chose qui va servir à l'homme d'une manière bonne vient de Dieu. Amen. C'est ce qu'il écrit, que toute grâce parfaite vient de Dieu. Amen. Donc toute chose qui va être au service de la société, pas dans le péché. Je veux dire, toute chose qui va être au service, au profit de la société, vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est souvent, le Seigneur m'a montré le piège dans lequel nous tombons souvent. Nous voulons aimer Dieu et nous voulons écarter notre prochain. Parce que nous pensons que Dieu nous aime plus que notre prochain. Qui c'est qui est tombé dans le piège? Hein? Dieu m'aime. Dieu nous aime tous, mais en fait, finalement, inconsciemment, je compte plus que mon prochain. On aime souvent tomber dans ce piège. Dieu m'aime plus, peut-être, plus que mon prochain, parce que je fais telle chose que tel autre n'est pas capable de faire, ou telle chose est dans le péché, et moi non. On aime tomber dans ces choses inconsciemment, inconsciemment. Mais nous savons que tout ce que Dieu fait, que ce soit au travers des hommes de bon, tout ce que Dieu fait de bon, que ce soit au travers des hommes, ou que ce soit au travers nous-mêmes, pour bénir l'humanité, nous vient de Dieu. Amen. On va voir ça, hein, parce que des fois, on risque de mépriser les dons naturels pour chercher que les dons spirituels. Et on va voir que la vie sera déséquilibrée. Très déséquilibrée, la vie chrétienne. Et souvent, le Seigneur m'a montré que souvent, nous aimons penser que nous sommes les meilleurs. Nous aimons penser, et c'est inconscient des fois, même conscient, nous aimons penser que nous sommes des meilleurs. Et quand quelqu'un aime penser qu'il est meilleur, il va essayer de se comparer à quelqu'un d'autre. On va voir un peu. Et quand il essaie de se comparer à quelqu'un d'autre, il va commencer à calomnier. Entre guillemets, il va dire... Telle personne, ceci n'est pas ça. Il va se le dire d'abord à lui-même, après il va le dire à son prochain. Ça commence toujours comme ça. Il va se le dire, il va le penser, et après il va le dire à son prochain. Un jour, le Seigneur m'a dit qu'il est tellement facile d'accuser quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Amen. Qu'il est tellement facile d'accuser une personne qui n'est pas là pour se défendre. C'est très simple. Et j'ai vu comment le Seigneur n'aimait pas ça. Amen. J'ai vu qu'il n'aimait, le Seigneur n'aimait pas ça. Il veut... Pourquoi est-ce que j'essaie de nous rappeler? Parce que nous avons qu'un commandement, c'est aimer. Dieu est son prochain. Amen. Aimer Dieu son prochain. Alors on va voir les dons. Comment Dieu les distribue selon chacun. Hein? Amen. Tout ce que tu fais pour bénir tu peux l'appeler don naturel, mais il n'est pas moins spirituel, je dirais, que le don spirituel, l'onction. Amen. Tout ce que tu peux faire de bien, tout ce que tu peux faire de bien n'est pas moins spirituel que le don qui vient de l'onction. Tout le don naturel qui fait du bien vient de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se le répéter? Parce que des fois, on l'oublie. On l'oublie, on cherche le spectaculaire. Alors qu'il y a vraiment le naturel qui compte autant que Dieu. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Chaque personne a des dons. Vous savez, il y a des études scientifiques qui ont montré que l'homme a entre 500 et 700 capacités naturelles. Des études scientifiques. Amen. Donc, on va lire que dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Des fois, quand nous mangeons, nous pensons que nous sommes en train de manger pour nous-mêmes. Vous savez que Dieu, il a donné même des dons dans l'art culinaire. Il y a des personnes qui ont des dons, mais des grands dons pour la cuisine. Amen. Et ça leur vient de Dieu. Des grands dons pour la cuisine. Il y a des personnes qui ont des dons dans l'art. Hein, les danses, les spectacles, ou dans l'administration, ou dans l'architecture, ou dans le travail de bureau. Dieu donne des dons dans tous les domaines. Il peut nous donner des dons pour la construction des maisons ou des bateaux, pour des travaux comme la broderie, comme la couture, comme les chantiers, comment dire, navals. Amen. Dieu a des dons dans tout ce qui compose la vie humaine. Tout ce qui compose la vie humaine. Mais à mon avis, aujourd'hui, les païens sont plus avancés que les chrétiens. À mon avis, c'est les païens qui ont développé leurs dons naturels plus que les chrétiens. Parce que c'est ce que je vois. C'est ce que je remarque de temps en temps. C'est ce que je vois. Parce que nous, les chrétiens, on a pensé qu'une fois venus au Seigneur, les dons naturels ne comptent plus. C'est fini, on va être spirituel, on va planer un peu. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé hein, depuis longtemps. Et on n'a rien fait. Entre-temps, les païens se sont développés. Ils ont mis des lois et les chrétiens sont des mendiants envers les païens. La situation est à l'envers. Vous savez ce que disait le roi Salomon? J'ai vu les princes qui tiraient les chevaux et les esclaves assis sur les chevaux. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. C'est ce qu'il voulait dire. Dieu nous donne des dons dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que ces dons-là, c'est pour nous faire vivre et pour notre prochain. Parce que les dons servent notre prochain. Amen. L'adoration, c'est pour Dieu, mais le don, c'est pour notre prochain. C'est pour ça que Dieu nous dit, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne pourras rien faire en fait. Tu ne peux rien faire. Parce que tu es là pour Dieu et pour ton prochain. Amen. On a vu ça. Tu es là pour Dieu et pour ton prochain. Il faut que, si tu es un enseignant, par exemple, il faut que ton enseignement reflète le caractère de Christ, c'est-à-dire l'excellence de Christ. C'est-à-dire que tu n'es pas là en tant qu'enseignant pour détruire les enfants, mais tu es là pour les construire. Parce que celui qui détruit, c'est l'ennemi. Amen. Est-ce que je m'en fais comprendre? Est-ce que je m'en fais comprendre? Si le problème aujourd'hui, c'est que les païens, certes, travaillent pour l'argent, Mais les chrétiens aussi, ils essaient de travailler pour l'argent, plutôt que de travailler pour la gloire, pour que Dieu se manifeste. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Tu ne vas pas travailler. Tu as besoin d'argent, certes, pour vivre, mais tu ne peux pas être esclave de l'argent. Tu ne peux pas travailler pour l'argent. Tu travailles pour que Dieu se manifeste. Tu travailles pour montrer l'excellence de Dieu dans ton travail, dans ton don. Et après, Dieu te bénit. Amen. Ça attire la bénédiction. Et Jésus l'a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Si on veut vivre pour Dieu, il faut régler dans nos cœurs cette question de l'argent. Il faut le régler, il faut dire, je ne peux pas servir Dieu et l'argent. Amen. Je ne peux pas servir Dieu et l'argent. Je suis là pour que Dieu se manifeste. Après, Dieu pourvoit à mes besoins. Amen. Et on verra que c'est le chemin que Dieu veut pour tout le monde. Et ces dons vont nous indiquer clairement notre appel. On ne peut pas s'épanouir dans les choses qui ne sont pas nos dons. D'abord, on va se sentir mal à l'aise quand on va commencer à y travailler. Parce que ce n'est pas notre don. Ce n'est pas en nous. On force. Amen. En force. Donc, on ne peut pas s'épanouir. Mais par contre, un don, quand c'est notre don, on se sent à l'aise dedans et on s'épanouit. Et notre Dieu est un Dieu de multiplication, n'est-ce pas? On a vu ça. Donc, Dieu, il donne la semence en don naturel. Aujourd'hui, on va parler des dons naturels. Donc, les dons spirituels, on sait aussi que ça marche comme ça. Mais on va d'abord parler des dons naturels. Quand je suis dans mon don, notre Dieu est un Dieu de multiplication et il le multiplie. Ça bénit et ça me vivifie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Ça me vivifie. On va, pour savoir qui nous sommes, pour savoir quels sont les dons, c'est très simple. Il suffit de regarder là où tu habites. Dans la région dans laquelle tu vis, dans l'église dans laquelle tu fréquentes. Parce qu'on a vu hein, les trois piliers de la vie chrétienne. On a vu que c'est la parole de Dieu, on a vu que c'est la communion fraternelle, et on a vu que c'est le caractère de Christ. Donc tu regardes où tu es, et tu te dis, ils vivent de quoi les gens qui habitent ici? Quelles sont leurs activités? Et tu regardes les possibilités de vie et tu dis, dans laquelle je peux me sentir à l'aise et libre pour produire. Amen. Pour produire. Aujourd'hui, on va être un peu pratique pour produire. Parce que n'oublions pas qu'on est là pour Dieu et pour les autres. Celui qui ne donne pas, celui qui est tout le temps donne, ne produit pas et vit sous une malédiction. Selon Dieu. Donc, celui qui veut s'aimer ses dons, il vit sous une bénédiction. Amen. Et il est béni. On va d'abord fouiller pour savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie naturelle? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie de l'Église? Qu'est-ce que je vais faire dans ma communion avec Dieu, le caractère de Christ? Amen. On va d'abord étudier ces choses. Le premier témoin, ça va être nous-mêmes. On va dire, très bien, j'aime faire ça. Vous savez, on peut savoir si c'est vraiment l'orgueil ou si c'est vraiment ce qui est dans notre cœur. On va faire un test. Amen. Aujourd'hui, on va être pratique, hein? N'est-ce pas? On va faire un test. On va dire, j'aime vraiment chanter. Est-ce que Dieu m'a appelé à ce que chanter me vivifie, me fasse vivre et bénisse les autres? Si tu n'as pas une belle voix, si tu chantes et que tout le monde ferme les oreilles, ce n'est pas ton appel. Amen. Hein? Ça peut être une volonté permissive de Dieu, hein, dans une église. Amen. Ça peut être permissif pour un temps. Mais jamais Dieu ne t'a appelleras à être chanteuse d'opéra si tu chantes pas bien. C'est pas ton don. Si tu dis, je suis enseignant, par exemple, je prends ça, et que quand, après une heure d'enseignement, personne n'a rien compris, tu dois dire, là, c'est vraiment moi. Là, c'est pas mon appel. C'est mon désir, mais c'est pas vraiment l'appel. Amen. Si tu crois vraiment être un grand leader et que ta personne qui te suit, sinon tes enfants, alors là, tu veux dire, non, je ne suis pas vraiment un mineur. Hein? Parce que nous sommes les premiers témoins, mais les personnes qui reçoivent autour de nous sont aussi les témoins. Amen. Il ne faut pas avoir qu'un côté, mais il faut voir le côté aussi de l'autre côté. Hein? On va voir comment pour fouiller. Une fois qu'on a testé et qu'on a vu, par contre, si tu dis, on va faire ça, et que tout le monde dit, ouais, c'est un don. Il y a des gens qui ont un don. Ils t'amènent 5000 personnes en 10 jours. C'est un don. Hein? Donc, si tout le monde suit, si tu vois que c'est vraiment que tu es appelé à être un meneur, et que Dieu veut que ce don soit utilisé pour son royaume, est-ce que vous comprenez? Tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour son royaume. Amen. Amen. Et une fois que tu as repéré la chose dans laquelle tu es à l'aise et que les autres soient sincères. Vous savez que Dieu n'aime pas qu'on flatte les gens. Dieu, il dit que celui qui flatte son prochain va tomber dans son propre piège. Dieu n'aime pas les flatteries. Pourquoi? Dieu cherche que nous vivons dans l'authenticité des choses. Amen. On soit sincère avec notre prochain. Il dit, tu sais, moi j'aime faire ça. Et tu le fais. Tu étudies la réaction des autres. Si les gens sont sincères qui te disent, laisse tomber là, ça va pas marcher. Au mieux que tu laisses tomber. S'ils sont sincères, hein, si tu connais leur sincérité. Et s'ils te disent, ouais, c'est vraiment super, ça va. Si tu sens leur sincérité, si tu sens que c'est ça, pense. Amen. Aucun don n'est mature quand il est donné. Nous naissons avec des dons, mais ils se développent au fur et à mesure que nous les utilisons. Amen. Au fur et à mesure. Ils ne sont pas à maturité. Ils grandissent au fur et à mesure que nous grandissons. Une fois que nous avons découvert notre don, notre endroit où nous sommes, vraiment où nous pouvons produire, et une fois que nous avons trouvé cela, n'essaie pas de changer. N'essaie pas de mettre une armure. Reste toi-même. Amen. Pour une raison, parce que Dieu t'a créé et selon les circonstances, tu es ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qu'il voulait. Et c'est le résultat auquel il voulait arriver. Amen. Vous savez, il y a des personnes introverties, d'autres extraverties, d'autres qui résonnent beaucoup, qui sont rationnelles, d'autres qui aiment la routine. D'autres qui aiment le changement. Hein? D'autres qui aiment beaucoup travailler en équipe. D'autres qui préfèrent travailler seul, tu les mets en équipe, tu les casses. Donc, ça dépend. Amen. Donc, ça dépend de... N'essaie pas de changer. Reste tel que tu es. Amen. Et trouve quelque chose dans lequel tu es à l'aise plutôt. C'est là que Dieu t'appelle. Amen. Sinon, ça va faire comme David, le roi David, qui voulait aller vaincre Goliath et qui a mis l'armure du roi Saül, hein, le jeune David. Il a mis l'armure du roi Saül, c'était trop lourd, il ne pouvait pas marcher avec. Pourtant, il était bien dans son habit de berger. Amen. Donc, c'est comme ça. Reste tel que tu veux. Il y a des gens qui parlent très fort. On l'entend à 10 km. Il y a une autre personne qu'on n'entend pas du tout. Vous savez que c'est Dieu qui a voulu qu'il ait ce caractère, qui parle très fort. Amen. Il a voulu et il va se servir de ça pour son royaume. Dieu aime la diversité. Alors nous les chrétiens, on veut changer notre prochain. On veut qu'il soit comme nous. On veut qu'il soit tel que nous, comme nous. Qu'il pense comme nous. On veut mettre dans la même forme, dans... Voilà. C'est contraire à la volonté de Dieu. Que chaque personne reste tel qu'il est. Si tu aimes chanter le matin à tue-tête pour réveiller tout le monde. Mais chaque personne doit rester telle qu'il est. Amen. Sinon, tu essaies de te mettre dans l'armure de quelqu'un d'autre, ça va marcher deux jours, après tu vas craquer. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a fait. Amen. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a fait. Donc, on va servir le Seigneur, on va vivre tel que nous sommes, selon notre personnalité. Amen. Selon notre personnalité. Et Dieu regarde surtout au cœur, comme disait tout à l'heure le frère. Il regarde au cœur et non au service. Amen. Il regarde au cœur et non à la position. Amen. Et non à la position. Vous savez, Jésus, les disciples sont venus dire à Jésus, « Dis-nous, qui est le plus grand ?» Les disciples, hein, « Qui est le plus grand ?» Aujourd'hui, c'est, vous savez, on voit toujours la même chose dans les églises. Qui c'est qui veut être au premier rang ? Qui c'est qui veut être au premier rang ? Jésus, il a dit, « Celui qui veut être plus grand, que ce soit celui qui serve. » Amen. Jésus nous mesure par rapport au cœur, au service, au cœur de service. Il aimait faire les choses que aujourd'hui, on n'aime pas faire aujourd'hui. Peut-être un homme de Dieu, je ne sais pas, ou quelqu'un de plus grand, président, il est quelque part et il envoie. Il n'ose même pas mettre sa veste. Il faut que quelqu'un vienne lui mettre sa veste. Parce qu'il veut être servi. Jésus aimait faire les choses que personne ne voulait faire. Laver les pieds des disciples. Les enfants couraient tout le temps après parce qu'ils servaient les enfants. Les enfants, venez autour de moi. Jésus préparait les repas. Vous savez, il faisait des choses simples pour servir. Toute occasion qu'il trouvait pour servir pour son prochain, il le faisait. Amen. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ce cœur. Nous, on veut être au premier rang pour recevoir les honneurs. Chaque fois que nous recevons les honneurs, nous perdons la récompense au ciel. C'est ce que Dieu il a dit. Amen. Il a dit que ta main droite, ce qu'elle fait, que la gauche ne sache pas. Amen. Que la gauche ne sache pas. Il a dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous savez, les pharisiens, comment ils priaient? Ils se tenaient au croisement des chemins. Hein? On voit quand Jésus décrit ça. Et ils récitaient leurs prières à haute voix. Oh là là, à haute voix, pour que tout le monde qui passe voit qu'ils sont en train de prier. Et comment donnait-il les offrandes? On voit quand Jésus a dit que la dame qui a donné la plus petite piécette a donné le plus. Les pharisiens, ils venaient, on voit Jésus qui décrit ça dans les évangiles, avec leur grand billet pour que tout le monde voit ce qu'ils vont donner. Ils montraient à tout le monde et ils dansaient et ils mettaient. Mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour leur propre gloire. Et Jésus disait, voilà leur récompense, ils viennent de l'avoir, leur propre gloire. Mais ce n'est pas inscrit dans les cieux. Amen. Ce n'est pas inscrit dans les cieux. Servir, que ce soit une haute société ou chez les pauvres, le service chez son prochain, c'est le service. Amen. Dieu n'est pas pour le pauvre et contre le riche. Ça, c'est des mentalités qu'on nous a mis qui ne sont pas divins. Dieu n'est pas pour le riche et contre le pauvre. Dieu est pour tout le monde. Amen. Parce que tout le monde a besoin de salut. Tout le monde a besoin de Dieu. Et nous pouvons les servir tout simplement avec nos dons naturels. Tout simplement avec nos dons naturels. Il y a des personnes qui, toute occasion bonne, pour faire du bien à son prochain, ils le font. Et Dieu inscrit au ciel. Amen. Ils le font et Dieu inscrit. Dieu, il a parlé, on va lire dans Matthieu chapitre 25, verset 23. Vous savez, celui qui a inventé le caterpillar, c'est ça? En fait, c'était un chrétien, mais bourré de dettes. C'était un ingénieur. Et un jour, il était vraiment au bout du rouleau. Et Dieu lui montre une vision. Et il a suivi la vision. Et la machine, le caterpillar, est sortie. Et il a pu vendre sa machine et il a payé ses dettes. Amen. Amen. Donc, parce que Dieu nous a donné à chacun un don qui va nous faire vivre. Mais nous, les chrétiens, on ne veut pas le chercher, son don. On veut seulement être spirituel. On veut seulement être spirituel. Matthieu, chapitre 25. Le naturel est tout aussi spirituel, entre guillemets. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 23. 25. C'est la parabole des talents. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. » Amen. Parce qu'on peut être un serviteur et ne pas être fidèle. Hein, ça arrive. Hein? Être un serviteur et ne pas être fidèle. La fidélité, c'est une des qualités qui font de nous des personnes humbles, des personnes qui servent le Seigneur. La fidélité. On peut servir Dieu, bon, quand ça nous semble bon, ou quand ça nous semble facile, ou quand on n'a pas autre chose à faire, ou quand il n'y a pas une autre chose qu'on place plus importante que ce qu'on a décidé de faire. Aujourd'hui, vous savez, on donne des parts. Ça nous arrive tous, hein, dans la vie de tous les jours. Facilement, on promet des choses. On promet sans avoir réfléchi. Et quelques jours après, il y a quelque chose qui arrive, mince alors, et on change d'avis. Et on change d'avis. Donc ça nous arrive tous parce qu'on est humain. Mais ça ne devrait pas nous arriver souvent. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois une personne sur laquelle on compte. Amen. Il veut que tu sois une personne sur laquelle on compte quand tu promets quelque chose de le faire. Dieu veut compter sur nous. Quand nous avons un don, il veut vraiment compter sur nous qu'on va le mettre à sa disposition à chaque moment que c'est nécessaire. Amen. À chaque moment qui a besoin. Sans vouloir. Vraiment, dans toute l'humilité. Alors, je vous ai dit aussi, pour savoir dans quel don nous sommes vraiment, nous aimons cette chose et nous la faisons sans avoir l'approbation, je veux dire, sans chercher à ce que les autres applaudissent. Amen. On se sent bien dans cette activité, que les autres applaudissent ou non, on se sent bien. Amen. Et on voit les fruits. On se sent bien et on voit les fruits. Où est-ce que ça nous amène tout ça? Les dons nous amènent où? Les dons spirituels, certes, si tu as une parole de connaissance, ou si tu as un don de guérison, tout ça, ça peut évangéliser tout de suite. Hein? Donc ça, c'est... Mais est-ce que les dons naturels, est-ce qu'ils évangélisent les dons naturels? Amen. Oui, ils évangélisent. Au même titre que les dons spirituels. Amen. Les dons naturels évangélisent. Parce que ton prochain, qui est à côté de toi, qui te voit prospérer dans ce que tu fais, qui sent l'atmosphère différente, spirituelle, dans ce que tu fais, parce qu'il y a Dieu dans ce que tu fais, qui te sent différent, il va pas fermer les yeux. Ça va lui parler. Et il va te demander pourquoi. Amen. Et Dieu t'ouvre les portes pour l'évangéliser. On va lire Proverbe 11. Proverbe 11, verset 30. Ne négligeons pas nos dons. Ne négligeons pas ce que nous avons. Que personne ne dise « je n'ai rien ». Ce n'est pas possible. Amen. Que personne ne dise « non, je n'ai rien, je ne peux rien faire ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas les mêmes dons, mais chacun a quand même des dons. Chacun a des capacités. Chacun a quelque chose à faire pour transmettre Dieu, l'excellence de Dieu dans la société. Amen. Chacun a quelque chose. Donc, Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Amen. C'est-à-dire que si tu es juste et que tu produis le fruit, les âmes sont gagnées. Amen. Si tu es juste et que tu produis les fruits, les âmes sont gagnées. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a formés, comme on a vu, pour vivre pour lui. Amen. Donc, et pour vivre pour lui, c'est gagner les âmes. Je pense même, et ceci est une vérité, quand je vois que Dieu dit à la dernière seconde, quand la dernière trompette va sonner, quand la dernière âme va être sauvée, Dieu va revenir parce qu'il connaît tout, hein, il connaît toutes les personnes qui vont être sauvées, il connaît la dernière. Et celui que la dernière soit sauvée, Jésus revient. Je pense même que le retour de Christ est lié à l'activité des chrétiens qui évangélisent ou pas. Amen. C'est lié. Pourquoi? Jésus l'a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. J'oublierai jamais cette vision que j'ai eue. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne connaissais pas d'église évangélique. Pourtant, je passais devant. Mais ça ne m'attirait pas parce qu'on m'avait donné des préjugés. On m'avait semé des préjugés contre les chrétiens évangéliques. Donc, je passais toujours devant. C'était écrit, Jésus qui sauve ou Jésus qui guérit, je ne me rappelle plus. Mais je passais à côté, je ne rentrais jamais dans cette église. Et quand j'ai eu cette vision du Seigneur, il m'a dit, je vais t'envoyer. Je pleurais, je hurlais, parce que... Donc je hurlais, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Envoie-moi où tu veux, mais pardonne-moi. Vous savez que chaque fois que vous êtes sauvés, Dieu dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Si tu viens à Jésus, il y a le salut, mais il y a aussi l'envoi. Beaucoup de chrétiens reçoivent le salut, mais ne veulent pas vivre la vie d'envoyé. Ils ne veulent pas vivre la vie d'envoyé. Ils sont sauvés, c'est bon. Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'aime, je m'enferme dans ma chambre, c'est bon. Mais ils ne veulent pas vivre la vie d'envoyé. Et vous savez que Dieu, toutes les personnes qui nous met à côté, toutes les personnes qui nous fait rencontrer, veut qu'ils voient Jésus en nous. Amen. Pour les sauver, parce que c'est le seul travail que Dieu fait maintenant sur la terre. C'est de sauver les âmes, parce qu'il sait que ça va passer. C'est de sauver les âmes. Et on peut lire ça dans Ézéchiel. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Et les disciples apprennent à vivre comme Jésus, apprennent à faire et à vivre comme lui. Amen. Allez, faites de toutes les nations. Et nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes ne sommes pas disciples. Nous ne pouvons pas faire des disciples. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Vous allez voir comment, parce que Ézéchiel combattait contre Dieu. Ben certes, Seigneur, je t'ai connu au milieu de ce peuple rebelle d'Israël. Moi, je te connais maintenant. Laisse-moi en paix. C'est bon, je te connais. Je t'aime et c'est bon, je ne veux rien faire. Et Dieu lui dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Vous savez, nous sommes là en signe d'avertissement. Comme disait l'apôtre Paul, nous sommes une odeur de vie pour nos frères et sœurs, mais nous sommes une odeur de mort pour les païens. Il faut qu'ils viennent, amen, il faut qu'ils sortent et qu'ils viennent vivre. Donc, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas ou si tu ne parles pas pour le pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu les avertis, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Vous savez que souvent les chrétiens ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens, surtout dans... Voilà, ils ne veulent pas savoir. Oh, dans la chambre, je ferme, Seigneur, je t'aime. Mais au travail, personne n'y est venu entendre que je suis chrétienne. Là, ces gens, ils sont sur ta tête. Amen. Non, mais c'est important. C'est important que les chrétiens comprennent. On ne va pas casser les pieds des gens. Le simple fait de savoir que nous sommes des chrétiens, ça peut changer des choses. Moi, ma sœur, elle s'est convertie 2 ans avant moi. Personne n'a jamais su qu'elle était chrétienne. Parce qu'elle avait peur du rejet, peut-être, ou je ne sais pas. Mais elle ne voulait rien dire. Et le jour où elle m'a dit de l'accompagner dans son église, « Tu pries ici, toi ? Depuis quand ?» Amen. Mais c'est comme ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous, comme à l'intérieur et à l'extérieur, on sache qu'on est chrétien. Tout simplement. Amen. qu'on est des chrétiens et que notre comportement soit comme un chrétien pour que les autres soient sauvés. Amen. Pour que les autres... Nous sommes responsables. Tu peux te demander pourquoi tu habites dans ce quartier ou pourquoi tu habites dans cette région. Tout simplement parce que ceux qui sont autour de toi, Dieu veut qu'ils sachent. Amen. Et il t'a choisi, toi, avec ta personnalité, pour cette raison-là. Toi, si tu es timide, il t'a mis là parce qu'il connaît la personnalité de ces gens. Si tu es extraverti, il t'a choisi. Il t'a mis là parce qu'il sait que c'est là que tu vas produire des fruits. Amen. Peu importe ton caractère, surtout ne le change pas. Amen. Ne le change pas. Reste tel que tu es. Et c'est ça que Dieu va utiliser. Amen. Du moment que ce n'est pas dans le péché. Donc nous sommes là pour la seule raison, en conclusion, pour aimer. Comme on a vu que sans amour, il n'y a rien. Tout ce que nous faisons, c'est rien. Donc pour aimer et pour faire partie de la famille de Dieu et pour devenir comme lui, pour le servir, pour sauver les âmes, parler comme lui pour les âmes. Amen. Parler de lui pour sauver les âmes. Donc la mission que Dieu nous donne va durer au-delà de notre vie terrestre. Donc ça va durer au-delà de notre mort physique. Ne négligez pas ce que vous êtes capable de faire. Amen. Ça s'appelle un don naturel. Et il est autant important que le don spirituel. Amen. Ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Cherchez ce que vous pouvez faire. On peut faire beaucoup de choses. Ne soyons pas disparates à gauche, à droite. Choisissons un ou deux et développons ces dons. Amen. Dans lesquels nous nous sentons très très bien. Mais ne restons pas là sans rien faire. Si tu es une personne, enfin, un peintre, vous avez vu ce que Picasso a fait? Un homme du monde. Un chrétien en ferait plus. Amen. Amen. C'est important qu'on peut développer le don. Et Dieu qui est avec toi, qui t'a donné ce don, va le multiplier. Amen. Va le multiplier. Ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Ça va bénir. C'est pour que ce soit les païens ou les chrétiens, nous sommes là pour bénir notre prochain. Amen. Nous sommes là pour bénir l'humanité. Aujourd'hui, les plus grandes œuvres humanitaires sont faites par des organisations païennes. Je pense que les chrétiens étaient appelés avant. Je pense. Amen. Que les chrétiens étaient appelés avant à faire des œuvres humanitaires. Je pense qu'il aurait même fait mieux. Amen. Donc c'est important. Pourtant, ils ont ces dons d'aide et ils les multiplient. Et ils sont bénis. Dieu est avec eux parce que tout don parfait vient de Dieu, même si c'est des païens. Amen. Tout don parfait vient de Dieu. Tout ce qui est bien, tout ce qui est là pour bénir l'humanité vient de Dieu. Amen. Que alors personne ne dise, je ne peux rien faire. C'est faux. Il y a quelque chose en toi que tu peux faire pour bénir ton prochain. Et Dieu, au ciel, ne récompensera pas les positions. Ça, c'est les chrétiens qui font les positions dans leur tête et dans leur conscience. Dieu, tout le monde est au même pied d'égalité devant Dieu. Nous pensons peut-être que le président, ou alors qu'il est plus grand que n'importe qui. Certes, c'est une autorité, mais selon Dieu, il n'est pas plus grand que n'importe qui. Amen. Il n'est pas plus grand. Parce que si le président fait bien son travail, s'il est chrétien, entre guillemets, parce que c'est lui qui va être récompensé, s'il fait bien son travail, et si un autre chrétien qui a multiplié son... qui a un don, a bien fait son travail, Dieu récompense la fidélité. Donc, les deux auront la même récompense. Mais si, par exemple, un pasteur n'a pas bien fait son travail, et qu'une autre personne qui a un autre don a bien fait son travail, celui-là aura plus de récompense que le pasteur. Parce que Dieu ne regarde pas les positions. Dieu regarde la fidélité. Dieu regarde la multiplication des talents. bon et fidèle serviteur. Amen. Dieu, nous, la position, c'est nous. Parce que c'est dans la tête des hommes. Dieu regarde le cœur de serviteur. Amen. Dieu regarde le cœur de serviteur. C'est pour ça que chacun cherche son don. Amen. Et commence à le mettre en pratique. Que ce soit au niveau de la communion fraternelle, que ce soit au niveau de la vie naturelle dans la famille ou au travail, mais que chacun repère son don et qu'il le fasse avec un bon cœur et qu'il prie pour que ce don soit une bénédiction pour l'humanité. Amen. Pour les personnes qui nous entourent. C'est comme ça que Dieu va être avec nous et qu'il va évangéliser. Sinon, si nous nous cachons, personne ne saura rien. Personne ne va savoir. Et on va, et le méchant, comme dit le Seigneur, va mourir alors qu'on aurait pu l'avertir. Amen. Alors on va prier. On va prier pour deux choses avant de continuer à le louer par nos offrandes. On va prier pour cette région, pour, comme on a dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont été blessées par des esprits de contrôle. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu fais par crainte ni par peur. Dieu regarde ce que tu fais avec un bon cœur. Ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Ce qui vient de toi, ce que tu désires faire. Amen. Donc on va prier que Dieu vraiment guérisse les cœurs dans cette région. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vaillants soldats. Et on va aussi prier que chacun puisse trouver donc, quelque chose qu'il fait pour bénir. Amen. Pour bénir. Parce que vous savez, la personne qui pense, nous sommes créés pour plus grand. Amen. Pour quelque chose de plus grand. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand. Amen. Pour quelque chose de plus grand que ça. Nous sommes créés pour bénir. Souvent, nous entendons dire, souvent, nous voulons attirer à ce que les gens s'occupent de nous. Nous voulons que les gens s'occupent de nous. Des fois, nous voulons que les gens s'occupent de nous. Vous savez que c'est une tendance qui n'est pas de Dieu. C'est un piège de l'ennemi. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce que nous voulons, et nous allons dire, oh oui, de toute façon, personne ne veut que je fasse ça, ou que je dise ça, ou personne ne veut de moi. Voilà. Personne ne voit. Personne ne voit, Personne ne voit ce que je vis. Personne n'entend. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Les autres ne me comprennent. Les autres ne me comprennent pas. C'est une façon erronée de penser. Il faut qu'on mette ça dans la poubelle. Si on veut vraiment vivre avec Dieu. Amen. Parce que les autres ne sont pas là pour nous, mais nous sommes là pour eux. Amen. C'est important de comprendre. Pas que nous sommes là pour que les autres fassent. On est dans l'erreur. On doit se repentir. Sinon, on va couler. Amen. On va peut-être m'en vouloir de ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes là pour les autres, mais nous ne sommes pas là pour que les autres soient pour nous. C'est inverser le rôle de Dieu. C'est inverser les choses de Dieu. Et ça ne va pas nous bénir. Amen. Ça ne va pas nous bénir. Mais nous sommes là pour Dieu et pour notre prochain. Nous avons un don à semer. Et ce don, il va bénir les autres. Amen. Et ces autres vont venir. Merci. Amen. Vous verrez que quand vous bénissez les gens, ils vont tous venir vers vous. Amen. Parce que vous les bénissez. Et vous irez aussi vers les autres parce qu'ils vous bénissent. Amen. C'est important de comprendre qu'il y a des mentalités que nous devons mettre dans la poubelle. Dans la poubelle. C'est bien de s'occuper des autres. Amen. Et vous verrez que si nous voulons que les gens s'occupent de nous et que nous, nous ne voulons rien faire pour bénir les autres, nous allons être déçus à 100%. Qui c'est qui a vécu ça? Personne n'a vécu ça? Amen. Amen. C'est vrai. Quand nous voulons que les autres s'occupent de nous, enfin je dis ça parce que je l'ai peut-être vécu moi aussi, on est tous humains. Amen. On est tous de nature humaine. Nous devons réapprendre. Ce que l'ennemi a volé, nous devons nous le réapproprier. Amen. Nous devons le réapprendre. Et nous devons savoir ça. Que quand les autres ne nous comprennent pas, que quand les autres, c'est parce que c'est pas la bonne façon de penser. nous devons plutôt les bénir. Nous devons plutôt faire quelque chose. Amen. Bénir, semer, et après on va récolter. Ah, Gigi, tu l'as vécu toi aussi?
Oui, oui.
C'est un piège, on tombe tous dans ce piège de toute façon. On tombe tous dans ce piège. Tout le monde tombe dans ce piège. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a enlevé cette façon de penser, on se rend compte que les choses changent. On se met sur le diapason de pensée de Dieu. Amen. Que nous sommes là pour être bénis et pour bénir les autres. Amen. Parce que on verra que si on reste comme ça, on va vraiment être déçu. On va vraiment être déçu. C'est une vérité. C'est vraiment une vérité chez les enfants de Dieu. Et quand tu demandes à une personne, ça va, est-ce que tout va bien, et qu'il te sort, ah ben personne ne voit ce que je souffre. Personne ne voit ce que je souffre. Alors prépare-toi à mettre la personne sur la bonne route de Dieu. Amen. Parce que sinon, il va souffrir encore. Mais nous sommes vainqueurs. Amen. Nous sommes vainqueurs avec Dieu. Parce que personne ne va voir. Mais c'est Dieu qui va voir. Amen. Et c'est Dieu qui va faire que nous soyons des bénédictions pour être bénis ici, à notre tour. Amen. Pour être bénis à notre tour. Que chacun dise, je suis une bénédiction. Amen.
Amen. Bénédiction.
Amen. Nous sommes une bénédiction. Amen. On va tous se lever pour prier. Amen. Pour bénir. Pour prier pour nos frères et sœurs qui ont été blessés dans la région, que ce soit par les chrétiens. Vous savez, j'en ai même entendu qui ne veulent même plus entendre parler de pasteurs. J'en ai même entendu dans cette région qui ne veulent même plus entendre parler de pasteurs ou d'église à cause des blessures qu'ils ont vécues. C'est comme des jeunes garçons qui ont subi des viols, par exemple, par, je sais pas, des prêtres. Ou des pasteurs qui sont allés voir les gens qui les ont vraiment abusés, qui ont abusé de la confiance, qui ont fait n'importe quoi. Ça donne un dégoût. Et ça donne une façon de penser qui est contre Dieu. En fait, ça ouvre les portes et ça ferme le cœur. Une personne qui est un vaillant guerrier ne veut plus entendre parler du Seigneur. Et il y en a beaucoup dans cette région, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on va prier que l'onction descende et guérisse ses cœurs. Amen. Je me réjouis de ce qu'il a fait pour Christophe.
Amen.
Donc que vraiment qu'il guérisse ses cœurs, que les cœurs soient restaurés et retrouvent leur confiance dans le Seigneur. Amen. Parce que l'homme qui a fait ça n'est pas Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu, mais il y a Dieu aussi. Amen. Il y a des chrétiens, mais il y a Dieu. Les deux sont différents. Amen. Les deux sont différents. Donc on va prier pour que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont été blessées. Que Dieu les bénisse, qu'ils retrouvent, cette confiance en eux, en Jésus. En Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que tous élèvent la voix. Alléluia. Pour cette région et pour nos frères et sœurs. Alléluia. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te remercions. C'est toi qui as dit que tu es le grand médecin. Merci Seigneur, parce que tu guéris les blessures des loups. Parce que les loups qui ont déchiré tes brebis, les loups qui ont déchiré. Seigneur, je prie que tu guérisses ces blessures. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu guérisses. Que ce soit les brebis qui se sont donné les coups les uns les autres. Père, envoie ton esprit dans cette région. Vois toutes ces personnes qui ont été blessées. Pourtant, ils étaient appelés à répandre les dons. Pourtant, ils étaient appelés à répandre ton onction, ton odeur partout. Seigneur, je te remercie de ce que tu le vois. De ce que tu vois où ils sont. De ce que ta main est étendue sur ces têtes. Que ce soit dans cette église où nous sommes réunis entre frères et sœurs. Que ce soit dans leur maison où ils sont, Seigneur. Merci, Seigneur, d'aller les toucher, de les guérir. De leur donner la force comme tu as donné à notre frère de témoigner, d'être guéri. De leur donner la force, Seigneur. De leur donner la force et l'humilité. De leur donner le courage, de leur faire comprendre que tu es Dieu et que tu les aimes, que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci de les guérir. Seigneur, merci de les bénir. Merci d'illuminer les yeux de leur cœur. Merci, mon Dieu, de les épanouir. Merci, mon Dieu, de les épanouir. Seigneur, tu les vois, tu plonges ton regard dans cette région. Tu plonges ton regard dans ce pays. Tu plonges ton regard dans le monde entier, dans le corps de Christ, où il y a des blessures. Seigneur, tu mets l'huile qui guérit. Seigneur, tu mets la parole qui vivifie dans leur cœur. Seigneur, tu mets la pensée. Et je dis à l'esprit d'oppression maintenant qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Je dis à l'esprit d'oppression qui s'est trouvé la porte qu'il est vaincu maintenant dans le nom de Jésus. Et je le dis maintenant, je lui dis qu'il est vaincu. Et je dis, Satan, tu lâches maintenant le peuple de Dieu. Tu lâches les personnes que tu as soumises dans cette région à l'esclavage des blessures. Tu lâches maintenant dans le nom de Jésus. Tu lâches les personnes que tu as soumises à l'esclavage des blessures dans le pays de la France, dans le nom de Jésus. Tu lâches les personnes que tu as soumises à l'esclavage dans le monde entier, le peuple de Christ, dans le corps de Christ, dans le nom de Jésus.